Merci Seigneur, merci pour l'œuvre de la croix. Merci pour ces grands jours. C'est la raison pour laquelle nous sommes aujourd'hui appelés enfants de Dieu. N'eût été cette œuvre, nous serions loin et perdus, égarés. Nous étions sans berger, errants. Chacun suivait sa voie. Mais toi, tu es venu, tu te donnais. Cet après-midi, ces vœux, une après-midi, Seigneur, d'action de grâce pour tout ce que tu as fait pour nous. Nous sommes venus, Éternel, c'est pour nous souvenir de tout ce que tu as enduré à notre faveur. C'est là pour permettre à notre conscience de réaliser, de discerner combien tu nous as aimés au-delà de notre attendement. Père, laisse que cette grâce, cette faveur que tu as donnée à tes enfants demeure. Nous voulons continuer à célébrer cette joie jusqu'au ciel, éternellement, et que rien ne puisse nous arracher de ta main. Heureusement pour nous, parce que tu veilles à ce que tout ce qui est entre tes mains ne puisse être arraché par qui que ce soit. Le bon berger, c'est toi. Et nous te glorifions pour ça. Prends les dessus de tout. Prends les commandes de tout. En ce moment où nous voulons encore une fois t'écouter, oui, rappelle-nous encore, parle à nos cœurs, ainsi parle à nos vies. Merci Jésus, merci de ta grâce. Lorsque nous lisons dans Jean 19, le 17e verset et le 18e, la Bible dit, Jésus portant sa croix arriva au lieu du crâne qui se nomme en hébreu Golgotha. C'est là qu'il fut crucifié et deux autres avec lui, un dans chaque côté et Jésus au milieu. Amen. Ce passage est la suite de tout un récit qui relate comment est-ce que notre Seigneur et Sauveur étant vers la fin de sa mission, son ministère, a été obligé de passer par une voie qui a fait finalement de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Et si nous lisons, nous voyons déjà à partir de Gethsémané, là où il sent vraiment une forte pression par rapport à ce qu'il attend. Il sent qu'il y a une forte douleur qu'il doit endurer. Et notre Seigneur pouvait le voir dans sa toute-puissance, dans sa divinité. Il pouvait voir ce qu'il attend. Et la chair a commencé à lâcher. Sa chair a senti une sorte de pression au point que, au lieu de dégager la sueur, il a commencé à dégager les grumeaux de sang. Le médecin explique mieux ces phénomènes. Il explique comment est-ce que, de suite d'une forte pression, stress, comment est-ce que le corps peut arriver à ce niveau-là, à dégager des grumeaux de sang. Ça veut dire qu'on est totalement dans une angoisse sérieuse. Et en ce moment, la chair en train de lâcher, notre Seigneur propose que la coupe lui soit éloignée. Mais l'esprit étant disposé, il finit aussi par comprendre que non, je ne veux pas que ma volonté soit faite. Je prie que celle de mon Père qui m'a envoyé le soit. Et ainsi, il est obligé. Nous réalisons ce récit, cette vérité, parce que
la compréhension de la souffrance que Jésus a endurée nous donnera une certaine attitude dans notre marche avec lui. Lorsqu'on ne réalise pas par quoi est-ce que Jésus est passé, on minimise les saluts. On pense que c'est quelque chose là, on a longtemps parlé du salut. Bon, on a tant parlé du salut. Bon, on nous dit que nous sommes sauvés. Bon, c'est ce qu'on m'a laissé attendre, c'est ce qu'on me fait croire que je suis sauvé. On ne réalise pas la pertinence, la valeur, le poids et le prix que cela a coûté. Tout simplement parce qu'on ne sait pas comprendre par quoi est-ce que notre Seigneur Jésus est passé pour arriver à nous accorder l'identité que nous avons maintenant. Pendant qu'il pouvait sentir cela et que sa chair était en train de lâcher, son esprit est demeuré fort. Et l'esprit a su s'imposer sur la chair pour dire, on y va, je dois accomplir la mission. Et qu'est-ce qui va suivre? Et nous voyons dans les jardins après, comment est-ce que deux soldats vont être envoyés par Pilate pour aller cueillir Jésus. Nous l'avons dit clairement ici que Jésus n'est pas un martyr parce qu'il avait toute la possibilité, le pouvoir d'échapper à la mort et de s'en aller. Mais parce qu'il avait un objectif, parce qu'il devait nous donner ce que nous avons aujourd'hui, parce qu'il devait te donner ce qui fait que tu puisses t'asseoir là, maintenant, il s'est laissé prendre. Il s'est laissé prendre. Il n'est pas comme Lumumba qui a essayé de fuir. Il n'est pas comme les autres qui essaient de se soustraire. Mais malgré eux, on arrive à mettre la main sur eux. Jésus s'est donné. Et dans Jean 10, il dit, le Père m'aime parce que j'ai donné ma vie. Personne ne me l'a ôté. Je l'ai donné de moi-même. J'ai encore le pouvoir de la reprendre. Je l'ai donné de moi-même. J'ai le pouvoir de la reprendre. Il s'est donné librement. Les gens sont venus le prendre. Un moment, lorsqu'ils veulent vérifier si réellement c'est lui le Fils de Dieu, et il pose la question de savoir, es-tu le Fils de Dieu? Est-ce toi le Fils de Dieu? Jésus de Nazareth, il dit, c'est moi. Pouf, il tombe. Jésus allait s'enfuir. Il allait même les envoyer à Macao. Chacun se retrouve déjà dans sa tombe. Il n'y a plus moyen de se relever. Moucha Zikiwa déjà, par la puissance de Jésus. Mais il n'a pas fait ça. Ils se sont relevés. Et peu après, il dit, prenez-moi. Il dit à Judas, ton temps est arrivé, faites ce que tu as à faire. Jésus s'est donné. Sachant ce qu'il attend, il s'est donné. Alors toute personne qui essaie de te dire qu'il s'agit d'un homme qui ne s'est pas bien comporté avec le gouvernement de l'époque, c'est comme ça que le gouvernement s'est décidé de l'éliminer. Ici, il ne s'agit pas de Mamadou, de quelqu'un, il s'agit de Christ qui s'est donné. Lorsqu'on ne discerne pas cela, on passe à côté de tous les mystères que cela cache. Il s'agit de quelqu'un qui s'est donné volontairement et librement, qui avait tout le pouvoir d'anéantir ce qui se tenait au-devant de lui. Mais il s'est donné. Et on le prend. On prend ce Jésus, on l'amène devant le Sanhédrin. Devant le Sanhédrin. Comme Esaïe l'a dit, comme un agneau qu'on amène à l'abattoir, il n'a rien dit. Il ne pouvait pas se justifier. Après ce moment de grand stress où des grumeaux de sang pouvaient couler de lui, vient maintenant le moment où il va commencer à recevoir des coups de poing. Il va commencer à recevoir des gifles. Ils se sont moqués même de lui, lui bandant les yeux et lui demandant, dis-nous qui t'a frappé. Comme pour dire, nous avons appris que tu as même le pouvoir de voir des choses qui se cachent sous la terre. On a même appris que tu as dit à Nathanaël, là où il était avant qu'il ne vienne de toi, qu'il était sous un arbre dans son petit coin là-bas. On a même dit que tu étais capable de lire ce qui s'est passé dans les cœurs des gens. Maintenant, là, nous t'avons bandé les yeux. Dites-nous, c'est lui qui vient de te gifler. Ce sont les créatures que lui a créées qui pouvaient se moquer comme ça de lui. Mais Christ, notre Seigneur, est resté sans mot. Il n'a pas réagi. Et là, devant les Sanhédrin, il y a Caïphe qui vient, le grand prêtre du temple de Jérusalem. Caïphe qui vient, qui va ensuite commencer à se moquer de lui. Es-tu le roi des Juifs? Il se pourrait que ce soit le roi des Juifs. Et il va sortir sa tunique, il va le mettre dessus, il sort son bâton, il donne. Et on va le battre de verges. Il ne s'agit pas de nos verges que nous connaissons ici. Il ne s'agit pas de petits morceaux de bois. Il s'agit de verges spécialement faites pour des grands criminels. La torture qu'a subie Jésus, personne d'autre auparavant ne l'avait déjà subie. Personne d'autre. Ce mode de torture a été conçu 300 ans avant Jésus-Christ par le Perse. Ils étaient spécialistes pour toute personne vouée à la crucifixion. Ils pouvaient déjà concevoir un mode de torture particulier. Et c'est de cette manière que, s'étant inspiré de ces styles perses, les Romains, 100 ans avant Jésus-Christ, ils vont raffiner le mode en question. Ils vont travailler comme pour dire, ils pouvaient te torturer jusqu'à amener ton cœur à exploser de l'intérieur. Et c'est de cette manière que Christ va être torturé. On va le battre de verge. Le verge, les chicots dont il est question, étaient constitués de petits métaux. De petits métaux qui étaient capables à la fois, une fois chicotés, ça prend un morceau et de la peau et de la chair. Et en cela, probablement, il a réussi 40 fouets moins un, comme c'était la coutume de Juifs. Il ne fallait pas aller au-delà de 40, probablement. Et il a enduré ces choses. Il a enduré ces choses. Caïphe, après avoir humilié, on a craché sur lui, se sentant incapable de le juger, il est obligé de le renvoyer auprès du gouverneur de Rome, à l'époque, Ponce Pilate. Ponce Pilate. Il dit, écoutez, cet homme, bon, je ne trouve pas, je n'ai pas le pouvoir de le juger. De toutes les façons, je ne sais pas ce qu'il a fait. Et c'est là l'accomplissement de la parole. C'était un agneau sans défaut. Il fallait qu'il passe par tous les checkings. Caïphe a checké, il n'a rien trouvé. Il dit, bon, vous l'avez battu de verge. Il est déjà chicoté. Il saigne de partout. On peut voir déjà comment sa tunique et sa peau étaient déjà confondues. La sueur, le sang, tout était déjà confondu à cause de coups de fouet qu'il pouvait recevoir. Totalement confondu. La Bible dit qu'il était devenu méconnaissable. On ne pouvait plus le reconnaître que c'était lui parce qu'il saignait de partout. Il saignait de partout. Lorsqu'on la voit chez le Romain, chez Pilate, Pilate étant déjà informé de ce que cet homme est véritablement fils de Dieu, sa femme étant déjà avertie dans les songes et il a déjà communiqué à son mari, Pilate va chercher à trouver de manœuvres pour le relâcher. Il va chercher à trouver de manœuvres. Et l'on voit l'ennemi, comment le diable est à l'œuvre. Le diable sent que la mission va être accomplie. Il faut qu'on la défie. Et il veut passer par Pilate pour ne pas que la mission s'accomplisse. Pilate arrive, il ordonne, il pose même la question. Dites-moi, es-tu le roi des Juifs? Parce que j'ai le pouvoir, moi, si tu parles bien avec moi, j'ai le pouvoir de te relâcher. Il dit à Pilate, tu n'as aucun pouvoir sur moi. Pilate, tu n'as aucun pouvoir. S'il était question de me défendre, j'invoquerais toute une légion d'anges ici. Et personne de vous ne résisterait. Personne. Fais ce que tu as à faire. Pilate dit, battez-les. Et il propose quelque chose à la foule. Il dit, écoutez les amis, je propose une chose. Je vais ordonner qu'on batte cet homme et qu'on le libère. Je vais proposer cela. Qu'est-ce que le peuple va choisir? Il dit, d'ailleurs, comme il est de coutume, quelqu'un doit être relâché et cet homme doit être crucifié. Et cette créature va se décider que le créateur soit crucifié. Mais la personne, l'élément dangereux, l'élément qui trouble l'ordre public de l'époque, les grands bandits à main armée, les chefs de bande des 40 voleurs, Barabbas, le peuple va oublier tout le déboire qu'il leur fait causer et le peuple va dire, relâchez-nous Barabbas, crucifiez celui-là. Et Pilate regarde et dit, je ne vois aucun péché chez lui. Qu'est-ce qu'il a fait? Il dit, si tu n'as rien, ils disent, si toi tu n'as rien trouvé chez lui, nous assumons, nous, que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Pilate, si tu penses que toi tu ne peux pas être responsable de ces choses, nous là, nous assumons. Et dans tout ça, le Seigneur Jésus, calme, silencieux, il est en train de consommer toute cette coupe juste pour que quelqu'un qui s'appelle moi puisse être sauvé. Juste pour que toi, tu aies la vie éternelle. Alors lorsque tu ne réalises pas tout ce par quoi Jésus est passé, quelqu'un peut venir te dire des histoires dans les oreilles au sujet du salut. Il faut lui rappeler que ça a énormément coûté cher. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque Dieu démontre l'importance qu'il attache à une âme, et lorsqu'il dit, si quelqu'un s'amuse d'égarer une âme, je veux qu'on lui attache une corde au cou, une grosse pierre au cou, et qu'on lui jette dans la profondeur de la mer. Qu'il ne réapparaisse plus, qu'il disparaisse. Ça veut dire, Dieu comprend mieux la valeur, le prix qu'il a payé pour nous, que nous-mêmes le bénéficiaire de ces choses-là. Et nous prenons le salut comme quelque chose de moindre. On ne sait pas prendre conscience de notre identité, parce qu'on n'a pas le temps de discerner ce par quoi Jésus est passé. Et l'on ordonne maintenant qu'on l'amène à Golgotha. De là où il est, chez Pilate, je l'espère, jusqu'à Golgotha, pendant qu'il était déjà faible, figurez-vous que depuis hier, il n'a ni bu de l'eau, il n'a ni mangé. Il est en train de subir ce coup-là dans un état déjà faible. Il est totalement affaibli. La chair et les habits confondus, méconnaissables même du niveau de visage. On voit lui tisser une couronne d'épines à la tête. Cette couronne d'épines qui sera tissée sur sa tête et placée sur sa tête avec des aiguilles aiguës, de telle sorte qu'il fallait les enfoncer dans le crâne. Et quand on les enfonce dans le crâne, ça saigne terriblement. Et tout ça, il l'endure. Et on lui donne le bois. Certains commentateurs expliquent même, essaient un peu de décrire comment est-ce que le bois pesait. Par branche, ça pouvait prendre 20 à 30 kilos que lui doit prendre. Les deux côtés, il y en a qui disent que c'était en forme de T, il y en a qui pensent que c'était en forme de X. Et lui, déjà son dos ne pouvait supporter rien du tout, même pas l'air. Mais il est obligé d'être étalé sur ces bois. Il est obligé de mettre ce morceau de bois sur lui, sur toute cette douleur-là. Et la plaie qu'il y avait, Et il doit avancer jusqu'à 1700 mètres. De là qu'il était jusqu'à Golgotha, il y avait 1,7 km. Il doit porter au point qu'il ne pouvait plus. Il était complètement abattu. Il ne le pouvait plus. Et imaginez-vous, quelqu'un qui doit tenir le bois et qui est faible avec tout le poids, c'est que par moment, il pouvait tomber de devant et se retrouver la face contre la terre, sans soutien, parce qu'il n'y a plus de force pour ça. Et pendant ce moment, des gens comme nous se moquaient de lui, l'humiliaient et disaient tout ce qu'il fallait. Les autres buvaient, mangeaient normalement, sans réaliser que c'est pour eux qu'il est entré d'endurer ces choses-là. De cette manière, aujourd'hui, il y en a qui ne réalisent pas ces choses et qui pensent que nous sommes dans un film de roman, qui pensent que c'est juste une histoire là montée. Et c'est là que le salut n'a pas d'impact pour la vie de beaucoup de gens. Nous ne réalisons pas ce mystère. Nous ne réalisons pas ce que notre Seigneur a enduré et nous pouvons prendre cette grâce à la légère. À la légère. Et il monte avec la croix. Simon est venu l'aider. Il arrive à Golgotha. Ce n'est pas fini. Nous avons encore d'autres choses à faire ici. On ne va pas l'enfermer par des cordes. Non. On va les tirer. Certains commentateurs disent ils l'ont étiré au-delà du normal. Parce qu'on a allongé le bras jusqu'à aller à 20 cm de plus au-delà du normal. Ce que je me limite par là, et on s'arrange que ce bras aille jusqu'à 20 cm de plus. Parce qu'on voudrait avoir l'endroit stratégique où il faut placer le clou. Un médecin décrit un peu cet endroit, il dit, entre la paume de main et le poignet, il y a un coin stratégique, on dirait que c'était fait exactement pour la crucifixion. Ça permet à ce que... C'est pourquoi je t'ai dit qu'il était torturé de manière stratégique et systématique. C'était fait par des stratèges qui savaient quand on fait ça, on est en train de provoquer ceci. Quand on fait ceci, on provoque cela. Quand vous touchez ici, il y a des nerfs qui vont réagir de cette manière. Tout a été bien calculé, bien décrit. Ce n'est pas vaille que vaille. Et on doit étirer jusqu'à 20 cm, jusqu'à trouver le point ici, stratégique. De deux côtés, pareil. Et il fallait clouer Christ. Avec tout le poids, il doit supporter. Ses genoux devraient former l'angle de 45 degrés. C'était stratégique. Pour que chaque fois que le poids essaie de descendre, s'il veut, il veut s'incliner, il y a le poids qui descend. Il est asphyxié de l'intérieur. Il ne sait plus respirer. Tout était fait à dessein. Il savait ce qu'il faisait. Et quand il se relève, il est obligé d'exhaler. Et c'est là que nous voyons, cette fois qu'il en a eu l'occasion, il a été obligé de sortir un mot. Chaque fois qu'il pouvait le faire, ne fût-ce que respirer un peu, il devait sortir un mot. Heureusement pour nous, le premier mot qui va sortir, qu'est-ce qu'il va dire? Pardonne-leur. Parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Père, c'est le pardon que Jésus nous accorde pendant que lui est en train de souffrir. Ce qu'il dit, c'est le pardon. Moïse n'a pas été capable de supporter la désobéissance du peuple pendant qu'il descendait avec les 10 commandements. Il a été saisi par la colère. Qu'est-ce que Moïse a fait? Il a brisé la tablette. Il a brisé à cause de ce que le peuple a fait. Mais notre Seigneur Jésus, à cause de ce que nous lui avons fait, ce qu'il fait, il demande pardon pour nous. Si Jésus pouvait te pardonner pendant qu'il était en train d'endurer la souffrance, comment penses-tu que maintenant qu'il est assis dans sa gloire, il ne peut pas te pardonner? Comment tu peux continuer à te culpabiliser? Il a été capable de le faire pendant qu'il te voyait le percer, le persécuter. Il a dit, ne comptent pas. Ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. À plus forte raison, aujourd'hui où tu es devenu son enfant, comment peux-tu encore douter de son pardon? Comment peux-tu encore douter de son amour? Comment pouvons-nous encore remettre en cause toute cette bonté pendant qu'il nous l'a prouvé, même à pleine souffrance? Il nous l'a prouvé. Il dit à Jean, regarde ta mère. Femme, regarde ton fils. Il dit au peuple, pendant qu'il montait avec sa croix, il dit, ne pleurez pas pour moi. Ne pleurez pas pour moi. Pleurez pour vous et pour vos enfants. Parce que si on peut faire, si on peut me traiter de cette manière, moi, un arbre frais, qu'en sera-t-il de vous, les arbres secs? La souffrance par laquelle tu es en train de passer, c'est normal. Jésus a enduré plus que ça, mais il a vaincu. C'est que tu vaincras déjà, parce qu'il t'a déjà accordé sa victoire. La victoire de Jésus, c'est ta victoire. Donc les souffrances là ne veulent rien dire. Si mon maître est passé par là, qui suis-je pour ne pas passer par là? Mais heureusement pour moi, parce que la victoire m'est assurée. La victoire m'est assurée. Et il dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Père, pourquoi tu l'abandonnes? Il a pris tous les péchés du monde. Il a été tellement comblé, couvert de nos péchés, que Dieu très saint ne pouvait plus fixer ce regard sur lui. Dieu n'a pas pu supporter regarder son fils couvert du péché du monde. Lui qui n'avait jamais péché, mais il a porté tous nos péchés. Et le Père s'est dit, ça je ne peux pas voir. Il dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi m'as-tu abandonné? Et Alfred Cohen est en train de démontrer comment est-ce qu'en ce moment, son cœur est en train de gonfler. Il explique de façon médicinale ou médicale, je ne sais pas, comment est-ce que la torture qu'on lui a infligée a provoqué certaines réactions des organes des nerfs, au point que pour rendre l'âme, Christ, c'est son cœur qui a explosé de l'intérieur, pouf, il expira. Il a tellement subi de choses. Tout ça pour notre salut. Mais lorsque nous recevons ce salut, nous n'avons aucune idée de combien cela coûte à Dieu ou a coûté à Dieu. Et cette grâce, nous la prenons des fois à la légère. On ne sait pas comprendre que nous sommes sauvés et donc Dieu veut nous voir marcher dans son amour. Dans son amour. Et il dit, tout est accompli. Entre tes mains, je remets mon cœur. Malgré tout ce qui nous arrive, même quand nous sentons que nous sommes au bout de nos efforts, nous devons toujours remettre notre cœur à Dieu. Toujours, toujours. Le meilleur endroit sécurisé pour que nous puissions revivre les exploits de cette gloire de Golgotha, apprendre à tout abandonner à Dieu. Lorsqu'on est au bout, on ne sait plus quoi faire. Entre tes mains, je me remets. Je remets ma vie. Je remets mon cœur. Dieu veut cela. Ce message n'a qu'un seul objectif. Lorsque le quatre évangiles reprennent ce récit, c'est pour un seul but. Créer la foi en Jésus. Remonter la foi de quelqu'un. Rappeler quelqu'un que tu as reçu quelque chose de très précieux. Tu n'as pas besoin de marchander ce que tu as reçu de Dieu. Il n'y a rien à comparer avec ce que tu as reçu. Tu as de la valeur. Tu vaux énormément aux yeux de Dieu. Cela n'est pas défini par le problème ou pas. Ce n'est pas défini par des soucis ou pas. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. L'ennemi ne doit pas te dire le contraire. Et ce message également est pour celui qui n'a pas encore reçu Christ. L'occasion t'est offerte. Maintenant que la croix est là, disponible, tu peux le recevoir comme Seigneur et Sauveur aujourd'hui. Et ainsi, accueillir la vie éternelle dans ta vie. Tu peux te décider. Lorsque tu écoutes sa voix, tu n'as pas besoin d'endurcir ton cœur. Tu as juste besoin d'ouvrir.
et de lui dire, je suis disposé, Seigneur, à te recevoir désormais. Je réalise ce que tu as payé comme prix. Ce que tu as payé comme prix. C'est tellement beaucoup, c'est tellement grand, énorme. Si nous commençons, même le matin, on ne va pas finir toute la journée. S'il faut détailler, décrire tout ce par quoi Jésus est passé. Mais le peu que tu as écouté ce soir, cet après-midi, devrait déjà te donner cette opportunité de dire, Seigneur, je suis là. Baissons nos têtes dans la prière. Essaie un peu de voir et de réaliser de quelle manière tu considères le salut que tu as reçu de Dieu. De quelle manière tu traites, tu considères l'œuvre accomplie, parfaite et achevée de Golgotha dans ta vie. Dans ta vie. Est-ce pour toi quelque chose de normal? Qu'est-ce que ça vaut chez toi? Ou par moment tu as tendance à comparer le salut à autre chose? Et commence à prier par rapport à ça. Commence à prier par rapport à ce que le Saint-Esprit va te mettre à cœur. Commence à prier. Oui Seigneur, merci pour la croix. Merci pour la croix. Comme l'apôtre Paul dit, pour moi, je n'ai pas besoin de savoir autre chose que la croix. Je n'ai pas besoin de connaître autre chose que l'œuvre accomplie, parfaite et achevée de Christ. L'apôtre Paul dit, je n'ai pas besoin d'autres informations que la résurrection de Jésus. Seigneur, fais-nous comprendre cela. Donne-nous le discernement, Père. Cet après-midi, glorifie ton nom. Au nom de Jésus. Amen.